En bio, le gros avantage, c'est qu'on économise sur tous les coûts de production. Et le lait bio est bien valorisé, il est acheté plus cher par les coopératives.
Je ne suis pas encore fait au rythme vietnamien. Le plat que je m'apprête à manger est donc un feu, cette soupe vietnamienne si populaire à l'étranger. Au fond de la salle, une vieille dame trempe dans son pho Un Ban Quê, un de ces longs beignets qui me donnent envie depuis que je suis attablé.
La cuisine est un art poétique et c'est un supplice quand on la lit en BD.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Comment le roman graphique raconte l'alimentation et la gastronomie? La question n'est pas nouvelle, la bande dessinée se tourne depuis quelques temps déjà vers la cuisine, les chefs, le vin, l'agriculture, mais elle mérite cette question d'être reposée à l'heure où la production d'albums sur le sujet s'emballe. Et ce n'est pas notre chroniqueuse Déborah Dupont, patronne de la librairie gourmande à Paris, qui nous contredira. Bonjour Déborah.
Bonjour François-Régis.
Il y a une belle production en ce moment.
Il y a une très belle production de bande dessinée, manga et roman graphique, effectivement.
Et vous avez sélectionné vos titres coup de cœur dans une bibliothèque idéale avec une quarantaine de titres, c'est ça?
Oui, j'avoue, j'ai pris exemple sur Dominique Hutin qui nous fait ses carnets de vigne. Moi j'ai fait un carnet de BD.
C'est bien, et vous nous décryptez et racontez cette tendance tout à l'heure avec quelques titres coup de cœur. Et nous, on a choisi avec vous, Déborah, justement, les deux romans graphiques qu'on a adorés et qu'on va déguster ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, Un orage par jour chez Kéribus, une maison d'édition qu'on apprécie pour son travail exigeant. Et nous recevons son auteur, André de Rennes. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes illustrateur pour la presse, Libération, l'Obs, mais aussi le New York Times, excusez du peu. Et Un orage par jour, c'est votre portrait, très humide et très savoureux, d'Ho Chi Minh-ville, l'ancienne Saïgon, la plus grande ville du Vietnam où vous avez séjourné en 2019, en pleine saison des pluies, ça je crois qu'on l'a compris. Un personnage principal, c'est vous, qui tente d'apprivoiser cette ville étrange et tentaculaire en marchant et en mangeant. Vous allez nous raconter cette aventure et vous êtes accompagné de Linh Nguyen. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vietnamienne, sous-chef du restaurant doublement étoilé La Réserve à Paris avec le chef Jérôme Banquetel qu'on choisit. Et vous avez un peu joué, on va le voir, le rôle de conseillère culinaire parce qu'il y a aussi des recettes vietnamiennes dans Un orage par jour, cet album de bande dessinée. Merci et bienvenue. Vous allez cuisiner un peu pour nous hein, pendant l'émission.
Oh oui, j'ai fait deux petits recettes que j'ai fait dans le livre, évidemment, pour on goûte un peu des vraies cuisines vietnamiennes, on pourrait dire.
Parfait, on a vraiment hâte et en plus on a faim. Et puis un deuxième titre de bande dessinée dont on va parler ensemble, c'est Terre Ferme, aux éditions Marabule, signé Aurélie Castex et Élise Gruau. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Un travail à quatre mains entre vous, Aurélie Castex, illustratrice, et Élise Gruau, documentariste à la radio. Vous écrivez, vous fabriquez des documentaires pour nos amis de France Culture, hein, c'est bien ça.
Ouais.
Et vous avez été aussi donc scénariste sur ce titre. Vous allez nous raconter l'histoire émouvante de Xavier et sa sœur Emmanuelle, enfants et petits-enfants d'éleveurs laitiers qui se convertissent au bio, l'agriculture biologique dans leur ferme, et vous racontez cette aventure humaine passionnante semée d'embûches aussi. C'est vraiment franchement une très belle histoire qu'on a beaucoup appréciée. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver des planches de ces deux albums coup de cœur ainsi que nos recettes, nos podcasts, tous nos contenus sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de plonger dans le roman graphique, allez, un coup de cœur pour un livre, qui n'est pas une bande dessinée, c'est pas non plus un beau livre, un livre de recettes, c'est, figurez-vous, un almanach. Ça vous dit quelque chose comme genre littéraire, chère Déborah?
Tout à fait, mais je l'avais pas encore vu, donc là j'ai hâte de pouvoir feuilleter ça.
C'est un almanach édité par l'association Étonnant Festin qui nous avait accueillis en 2019 pour une émission dont on garde un super souvenir à Clermont-Ferrand. Éric Roux et ses équipes publient le second numéro du Solide Armada. Non, pas Armagnac. Solide almanach nourricier, et cette édition 2022 fourmille de nouvelles histoires de goût, de découvertes, de rencontres, de recettes, de produits au fil des saisons, puisque c'est le principe de l'almanach, on le sait. Et on salive, on apprend des tas de choses sur les cuisines d'Auvergne et du Massif Central. Oui, c'est quand même un livre qui est vraiment centré sur cette région. Quelqu'un a des affinités avec l'Auvergne?
Non.
Enfin, pas spécialement.
On n'aime pas du tout. Oui, c'est ça. Non, non, mais vous pouvez avoir des affinités sans y être né. Hein. Mais en tout cas, c'est sur l'Auvergne. Il y a un patrimoine vraiment exceptionnel. Et à tous les coins de page, on a des textes vifs, plein d'humour, une maquette très engageante, de très beaux portraits de producteurs, signés du photographe Julien Mignot. On apprend par exemple, tenez, allez, une petite colle. Vous savez qu'on aime bien jouer dans cette émission. À la page 19. On apprend ce que sont des jambes de brebis. Ça vous dit quelque chose? Alors évidemment, c'est pas littéralement la jambe de l'animal. C'est culinaire. Non, ça vous dit rien?
Ah non, non.
Ah, je vous ai collé. Eh ben voilà, je vous propose un extrait. Eh bien, les jambes de brebis, ce sont, figurez-vous, des beignets en pâte levée où le beurre était autrefois remplacé par de la graisse d'oie. Et on les appelle ainsi, non pas parce qu'elles dansent la gigue, mais parce que leur forme triangulaire rappelle les jambes des ovins, surtout après avoir un peu forcé sur l'agneau. Les plus gourmands prétendent que les moutons ont 5 pattes pour pouvoir en manger plus. Moi, perso, j'ai jamais mangé de jambes de brebis.
Non, mais en Alsace,
une spécialité auvergnate.
En Alsace, vous avez un beignet qui s'appelle le chêne queuleux, qui ressemble à ça et qui, en fait, ça, littéralement, ça veut dire cuisse de dame.
Ah, carrément. Ah oui,
donc
d'accord.
Il a la même petite forme, mais c'est alsacien.
Bah merci beaucoup Déborah, on apprend des tas de choses dans ce solide almanach nourricier 2022 édité à Clermont-Ferrand par l'association Étonnant Festin. 19 euros, et en plus on fait un geste pour aider cette association très dynamique qui réconcilie la culture, la cuisine et le bien manger à l'échelle de l'Auvergne. Toutes les informations pour se procurer cet ouvrage sur franceinter.fr. À la page, on va déguster. C'est Laurent Thomas qui réalise cette émission avec Julien Dumont derrière la console. Nadia Chougui pour la préparation de l'émission et Djoubaka a choisi pour notre première pause musicale Cannibal. Waouh, il va être question un peu d'une certaine gastronomie. Un groupe de rock garage, psychédélique, originaire de Normandie avec le titre Life is Dead. Tout un programme. Bon appétit avec Cannibal sur France Inter. You are a sister, you want me dead. Now I am dead, sir. I am upset. I want you dead, cause I am upset. Now you are dead, though. We want to live, but life is dead, so. Now you are dead, though. We are upset, so. We want to live, but life is dead, so. Le 9e art s'intéresse à l'alimentation et la gastronomie, c'est notre menu dominical. André De Rennes et Aurélie Castex, vous êtes tous les deux auteurs, illustrateurs de bandes dessinées. Est-ce que chacun connaissait ou situait le travail de l'autre? André De Rennes.
Non, par contre j'ai lu le livre ce matin que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc content de découvrir ton travail.
Très bien, Aurélie. Merci. Castex, vous connaissiez André De Rennes?
J'ai découvert aussi la bande dessinée cette semaine et que j'ai vraiment eu un coup de cœur aussi pour ses dessins.
Élise Gruot, vous êtes co-autrice de Terre Ferme, vous connaissiez le travail d'André De Rennes?
Et non, je ne le connaissais pas, mais c'était un grand bonheur de découvrir.
Avec un dessin singulier, on va entrer évidemment dans vos univers. Alors, on est dans deux univers un peu différents. Hein. On est dans un voyage au bout du monde, un voyage gastronomique et culinaire au bout du monde. Chez vous, on serait plutôt dans une immersion champêtre. Mais dans les deux cas, il y a vraiment, au moins en commun, d'avoir cette expérience immersive, la cuisine vietnamienne d'Ho Chi Minh Ville pour vous, André Derenne, et puis effectivement la vie d'une ferme laitière en Normandie, dans Terre Ferme, votre album Aurélie Castex et Élise Gruau. Est-ce qu'il y a dans les deux cas un élan, une curiosité, une énergie qui vous pousse comme ça, en tant qu'auteur de romans graphiques ou de bandes dessinées, à embrasser un sujet ?
Bah c'est nous en tout cas.
Donc Aurélie Castex.
Xavier et Emmanuel sont des voisins d'une maison dans laquelle je vais depuis que je suis enfant. Et donc ce sont deux éleveurs laitiers.
On est donc dans le département de l'Eure, hein, voilà. Normandie.
Et c'est né d'une curiosité de ma part, parce que moi je suis une citadine, j'habite à Paris. Et j'ai découvert en les rencontrant, leur métier, la difficulté de travailler la terre, plein d'épreuves qu'ils ont dû surmonter, et puis aussi une rencontre, parce que c'est des gens extraordinaires, donc ça a donné l'envie de créer un livre.
Et c'est à quel moment qu'on sent, dans une rencontre humaine comme ça, que ce petit déclic, cette idée qu'il y a potentiellement la matière, la dramaturgie, entre guillemets, suffisante pour construire une histoire?
Alors moi, je dessine un peu tout le temps, partout, donc j'allais souvent à la ferme.
C'est ce que vous êtes en train de faire. Hein.
Voilà.
Je sais pas qui vous êtes en train de portraiturer.
Donc je dessinais à la ferme, et en discutant avec eux petit à petit, j'ai découvert qu'ils avaient une histoire, une histoire familiale, deux histoires personnelles, très intéressantes. Et donc au cours d'une discussion, un jour, j'ai demandé à Xavier si on pouvait pas envisager faire un livre sur lui. Et j'en ai donc parlé à Élise.
Élise, votre réaction ?
Oui, c'est à la fois une rencontre avec deux personnes, des humains, qui vont porter une histoire. Et puis c'est aussi, là, il y avait un sujet, puisque le bio, cette grande transformation qui pose question et dans laquelle on est tous un peu confrontés. Qu'est-ce qu'on mange ? L'équilibre de la terre ? Où est-ce qu'on en est avec tout ça ? Alors là, on avait vraiment deux personnes qui nous permettaient de raconter cette histoire de façon très incarnée et humaine. Et pas dans le débat et la théorie.
Et passer du documentaire pour nos amis de France Culture à un roman graphique ou une aventure en bande dessinée, on a les mêmes réflexes, entre guillemets, scénaristiques, journalistiques?
Oui, c'était vraiment intéressant là de lâcher les micros. De toute façon, il était hors de question d'avoir des micros parce qu'à la ferme, il y a le bruit des trieuses en permanence. Et puis eux, ils travaillent tout le temps, donc on s'arrête pas à une table pour faire une interview. Nous les avons suivis là où ils allaient et on a parlé, discuté, échangé jusqu'à même une longue interview dans un tracteur. Donc les micros n'auraient pas pu être présents. Après, j'ai tenté de retranscrire ça dans une histoire un peu plus romancée aussi, puisque c'était moi du coup qui donnais les mots, même s'il y avait beaucoup de choses qui étaient prises d'eux, évidemment. J'ai essayé d'être au plus proche, tout en faisant résonner, voilà, pour moi, avec leur histoire.
On va plonger dans l'aventure humaine que vous nous racontez dans ce très bel album, poignant, émouvant, l'histoire d'un duo de producteurs laitiers qui convertissent leur ferme au bio, Terre Ferme, aux éditions Marabule. On va s'occuper de vous d'abord, André Derenne, et on va voir que si vous croquez la cuisine vietnamienne dans un voyage à Ho Chi Minh Ville que vous avez réalisé en 2019,
oui, septembre-octobre.
C'est qu'il y a au départ quand même une vraie passion pour la cuisine et la gastronomie?
Bien sûr, oui, il y a plusieurs envies. Moi, je suis vraiment passionné de cuisine depuis des années et j'ai cette chance de travailler chez moi et de pouvoir me permettre de faire mijoter des choses pendant que je suis à ma table à dessin. Oui, c'est un vrai goût qui vient de loin. Hein. Mes parents ont toujours beaucoup cuisiné, et pas seulement la cuisine française, mais de la cuisine un peu partout. Et je pense que ça m'a vraiment donné ce goût pour les bonnes choses, pour la cuisine. Et j'avais pas forcément pensé au départ à en parler en bande dessinée ou en dessin. Et puis, finalement, assez naturellement, m'est venue l'idée de faire une BD sur la cuisine. Parce que, par ailleurs, j'avais aussi cette envie de faire le portrait d'une grande ville et de faire de cette ville le personnage principal d'un livre. Et, en fait, en pensant à Ho Chi Minh Ville, dont j'avais entendu parler, je voyais là un peu l'occasion idéale de parler à la fois d'une ville et de cuisine et de voir comment les deux pouvaient réagir ensemble et se modifier les uns les autres.
Comment on se retrouve comme ça de ce projet que vous formulez dans votre tête au fait de vous retrouver comme ça en 2019 dans la touffeur d'Ho Chi Minh Ville? Comment ça a basculé?
En fait, j'avais ces envies-là et puis j'ai vu passer une opportunité, celle d'aller en résidence artistique, c'est-à-dire rester pendant un temps donné avoir du temps pour faire un projet artistique, et donc qui était à Ho Chi Minh Ville, organisé par l'Institut français. Et donc j'ai postulé, j'ai eu la chance d'être accepté, et à partir de là, j'ai eu un an pour me préparer, un an pour commencer à apprendre le vietnamien, pour me renseigner un peu plus sur l'histoire, voilà, sur l'histoire de la colonisation, sur l'histoire du pays qui est extrêmement complexe. tout en sachant que forcément ce projet allait être déterminé par ce que j'allais voir sur place, par ce que j'allais découvrir moi-même et que je pouvais pas non plus prévoir grand-chose.
Il y a écrit sur la couverture de votre livre, en couverture travel d'ailleurs impressionnante, à l'atmosphère très particulière. On va voir d'ailleurs que vous avez vraiment un dessin singulier. On va essayer de le décrire pour nos auditeurs à ce micro. Il y a écrit roman graphique sur cette couverture. Il n'y a pas vraiment d'intrigue. C'est plutôt un carnet de route, un road movie urbain qui raconte vos longues déambulations dans la ville. Comment vous définiriez ce roman graphique, justement?
C'est vrai que si on s'attend à du suspense, les gens vont être déçus. Mais...
Non, j'ai pas promis à nos auditeurs un Hitchcock.
Mais c'est un livre très calme, effectivement. Alors, pour moi, c'est
contemplatif,
pas...
pourrait-on dire.
Voilà, c'est très contemplatif. Moi, je le vis comme un livre de balade, en fait. Hein. C'était même l'idée. Tous les jours, je m'étais donné comme objectif de marcher, en fait, dans Ho Chi Minh Ville et de marcher une dizaine, quinzaine de kilomètres par jour, dans un district différent chaque jour. En fait, la ville fait 2000 km². Par comparaison, Paris en fait 105. Donc, il y a du boulot si on veut voir à peu près toute la ville. Et donc, je m'étais donné cet objectif-là. Et au final, à la fin, quand j'ai commencé à réfléchir au livre, je me suis dit, je vais essayer de prendre une dizaine de balades, une dizaine de journées, qui associent à la fois un plat qui m'a intéressé, de la nourriture, et un lieu de la ville qui est extrêmement diverse elle-même, et deux choses qui peuvent matcher ensemble et qui sont intéressantes et qui disent quelque chose à la fois de la ville d'aujourd'hui et de la cuisine vietnamienne.
On peut donc parler d'un portrait croisé d'Ho Chi Minh Ville et de sa cuisine.
Exactement.
Et de sa cuisine notamment qui passe par la rue, qui passe par les petits boui-boui, les gargotes, par des établissements très populaires où vous découvrez des choses, vous faites des expériences gustatives qui moi-même m'ont fait sursaliver à chaque page, sincèrement. Et là, de ce point de vue-là, c'est parfaitement réussi. Avant qu'on continue à raconter votre aventure, je vous propose de croquer un extrait de votre livre, son style, l'atmosphère. Notre réalisatrice Lauranne Thomas a mis en onde un extrait de votre roman graphique.
Levé tardif. Il est 9h et il n'y a plus grand monde ici. La plupart des gens se sont levés avec le soleil vers 5h du matin et ils ont déjà petit déjeuné depuis bien longtemps. Je ne suis pas encore fait au rythme vietnamien. Le plat que je m'apprête à manger est donc un pho, cette soupe vietnamienne si populaire à l'étranger. Pendant des heures, on fait mijoter une grosse marmite d'os de bœuf avec de l'anis étoilé, de la cannelle, des clous de girofle, des graines de cardamome noir et de coriandre, des bulbes d'oignon, des échalotes, et du gingembre brûlé. À défaut de comprendre toutes les subtilités du menu, j'ai commandé un feu au hasard. Mais je ne m'attendais pas à ça. Oh, des tripes! Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai mangé des tripes, mais ce qui est sûr, c'est que ça remonte à très longtemps dans mon souvenir. Je n'aime pas particulièrement ça. C'est beau quand même, ces petites lamelles de tripes. Le bouillon est clair, et les tripes blanches se confondent avec les nouilles de riz et les tranches d'oignons crus translucides. Il faut bien avouer que ça a l'air bon. Rien à voir avec ces horribles tripes à la mode de camp. Du coin de l'œil, j'espionne mes voisins en quête d'informations. On ajoute une belle poignée de pousses de haricots mungo bouillis, encore tièdes. On déchire quelques feuilles de basilic thaï, de la coriandre longue, et 2-3 tranches de piment frais, multicolores et parfumés, dont la simple odeur est déjà piquante. Le vieil homme à ma droite fait les choses bien. Il presse un citron vert dans sa cuillère, enlève soigneusement les pépins qui y sont tombés, puis verse le jus recueilli dans sa soupe. Au fond de la salle, une vieille dame trempe dans son pho un ban quai, un de ces longs beignets qui me donnent envie depuis que je suis attablé. Un peu de sauce, et le tour est joué. Bon, goûtons. C'est délicieux. Malgré la profusion d'épices, le bouillon est d'une grande douceur. La saveur particulière des tripes se marie parfaitement au parfum des herbes fraîches et à l'acidité du citron vert.
On vient d'entendre les pages 17, 18 et 19 d'Un orage par jour, votre roman graphique André de Rennes, publié aux éditions Kéribus. Lynn Nguyen, vous avez été un peu conseillère. Vous avez plutôt retranscrit en fait les recettes qu'a goûté à Ho Chi Minh Ville André de Rennes. Vous retrouvez évidemment cette atmosphère des gargotes vietnamiennes où l'on déguste notamment le fameux feu.
Oui, mais en fait, les plats feu au Vietnam, c'est plusieurs versions différentes.
C'est ça. Et d'ailleurs, il a été assez surpris, André, oui. Par les tripes.
Parce qu'en fait, le trip, c'est uniquement c'est au sud. Et au nord, on n'a pas les tripes. Et le boulet de bœuf, c'est pareil, c'est au sud, mais au nord, on n'en a pas. On a uniquement la viande de bœuf, soit saignant, soit cuit longtemps, mijoté dans le bouillon. Et puis après, pareil aussi qu'au nord, on mange beaucoup de feu avec le poulet,
c'est ça.
Mais ça n'existe pas beaucoup au sud.
Et précisons qu'Ho Chi Minh Ville, est au sud du Vietnam.
Exactement.
Et oui. C'est un peu le pendant, enfin, c'est pas la capitale puisque c'est Hanoï au nord, mais c'est en tout cas la plus grande ville et puis c'est un peu le poumon économique, c'est ce que vous expliquez.
C'est la capitale économique, effectivement.
Bon souvenir de ce feu?
Oui, bon souvenir. En fait, ça faisait partie des plats que je connaissais bien, enfin, relativement bien avant d'aller à Ho Chi Minh Ville. Et peut-être la première surprise, c'était de voir qu'en fait, ce plat qui a l'air si emblématique du Vietnam en France, dont tout le monde parle, et en fait, pas particulièrement plus populaire qu'un autre au Vietnam, en tout cas à Ho Chi Minh Ville. En fait, c'est un plat qui se déguste principalement au petit déjeuner, et les gens à qui je parlais mangeaient plutôt du soy, du riz gluant, ils mangeaient des banh mi, les sandwichs, ils mangeaient d'autres choses, de hot tea, choses comme ça. Mais malgré tout, voilà, le feu était vraiment très bon, très clair, à la fois très doux, et qui représente vraiment cette douceur caractéristique de la cuisine vietnamienne pour moi. Et ce goût de tripe qui était vraiment surprenant pour moi, et ça faisait vraiment des années que j'en avais pas mangé, et une tripe cuisinée en fait naturellement comme ça, juste bouilli et pas du tout avec une sauce épaisse comme on peut parfois trouver en France. Et je dis que j'aime pas les tripes à la mode de Caen, mais il faudrait que j'y remange. Mais voilà, en tout cas, ce feu était vraiment très savoureux. Ouais.
Vous nous confirmez qu'on prononce feu alors que ça s'écrit P-H-O, faux?
Oui, c'est P-H-O avec une accent sur le O.
Ouais.
Deux fois.
Certains prétendent que feu viendrait
du feu.
De pot-au-feu.
À l'époque, parce que pendant la guerre, il y a un monsieur, c'est un Français, qui a demandé à sa femme, elle est vietnamienne, qui fait le pot-au-feu. Et elle, selon le goût vietnamien, elle a modifié la recette de son mari qui a demandé. Du coup, elle a rajouté des épices dans le bouillon et ça rend encore plus chaud le pot-au-feu à la base, en fait.
On retrouve d'ailleurs dans cette grammaire culinaire vietnamienne un peu un certain héritage de la colonisation française. Vous dégustez à un moment donné une infusion d'artichaut qu'on appelle étrangement par le nom français.
Tia artichaut, oui, c'est du tia artichaut, c'est artichaut. On retrouve comme ça dans pas mal de mots, comme carottes, qui se prononcent quasiment de la même manière en vietnamien, des choses comme ça. Il y a beaucoup de mots, même banh mi, on dit que ça viendrait peut-être de pain de mie, c'est ça?
Oui, et nous on utilise beaucoup de mots français, par exemple le mot gâteau, et nous on dit aussi gâteau, mais on n'écrit pas comme en France, on écrit G-A plus loin T-O, c'est un gâteau.
D'accord. Banh mi, on peut parler d'un pain baguette qui est garni de crudités.
En fait, c'est un nom générique pour dire sandwich au Vietnam. Pareil, en France, je crois qu'on a cette idée de quelque chose de très défini. Mais voilà, banh mi, ça veut dire sandwich. Et en fait, il y a une quantité de banh mi infinie. En fait, il y a plein de sortes de banh mi avec quand même des constantes vietnamiennes. Mais par exemple, dans le livre, à un moment, je parle de banh mi cha ca, c'est-à-dire un banh mi avec des gâteaux de poisson frit. Et c'est très étonnant, il y a des banh mi à l'œuf, il y a des banh mi au pâté, il y a des banh mi à la mortadelle, et toute une sorte de banh mi, tous très bons. Hein.
Vous avez séjourné à Ho Chi Minh Ville pendant la période des moussons, ça on s'en rend compte, ça a donné le titre de votre album. C'est presque un personnage dans votre livre en fait, vous êtes assez gourmet solitaire, hein, et ça c'est pas pour paraphraser un célèbre album de manga japonais extraordinaire.
On retrouve des constantes entre les deux volumes, hein. C'est impressionnant de voir ça.
Ces pérégrinations urbaines comme ça, où on va manger à droite, à gauche, mais il est vrai que l'humidité se ressent même jusque dans, et on y vient, le style très singulier de vos dessins. Comment vous les définiriez ?
En fait, justement, j'avais envie de rendre cette atmosphère humide de la ville et j'ai réfléchi à quelle technique serait la plus cohérente et assez vite est venue l'idée de l'aquarelle, de l'encre. Et l'encre me permettait d'avoir des couleurs qui resteraient constantes sur les 200 pages. Et c'est des couleurs qui elles-mêmes sont inspirées des couleurs des murs de la ville, des couleurs des bâtiments, de la peinture murale, aussi du mobilier urbain qui a vraiment des couleurs particulières et récurrentes, celles des petits tabourets en plastique rouge, des tabourets en plastique bleu, des choses comme ça. Et donc toute la gamme du livre a été constituée à partir des couleurs que j'ai vues dans la ville. Et cette humidité, j'essaie de la retranscrire justement avec l'humidité de la technique, de l'eau et des encres qui se mélangent les uns.
Alors il y a des pages qui sont vraiment divisées en six carrés, ouais. En six cases, avec évidemment des légendes. Parfois, pour ressentir même la contemplation ou la flânerie, il y a des pages entières où il n'y a même pas de texte. On est vraiment dans une espèce de déambulation assez onirique en plus. J'ai envie de dire qu'il y a une vraie poésie, une atmosphère très délicate, très ouatée qui se dégage de vos dessins. Ça, c'est un effet que vous recherchiez. Hein.
Exactement. En fait, aussi, Ho Chi Minh Ville, souvent, on l'a décrit comme une ville frénétique, avec une circulation...
Un peu effrayante aussi. Hein. Quand vous dites effectivement qu'il y a des embouteillages, que c'est pollué, qu'on circule en scooter, alors que vous avez choisi le parti d'être un piéton.
Exactement.
Dans une jungle urbaine un peu hostile.
Ouais. Et malgré toute cette profusion, eh ben c'est aussi une ville qui est avec beaucoup d'arbres, une ville très verte, une ville avec des grands parcs. Et étrangement, avec le recul, c'est un peu ce calme de la ville qui m'a aussi plu. Par exemple, il y a des grandes avenues avec beaucoup de circulation, mais dès qu'on les quitte et qu'on va dans les haims, c'est des toutes petites ruelles, eh bien en fait, la vie baisse en intensité et on va avoir des moments très paisibles comme ça, de balades vraiment très agréables, où on va aussi croiser des marchands de rue qui vont faire des plats délicieux. Mais il y a du calme et de la frénésie dans la ville.
Aurélie Castex et Élise Gruau, un petit mot sur cet album, votre regard extérieur.
J'ai trouvé que c'était Aurélie Castex magnifiquement dessiné, et puis surtout c'est très agréable parce que chaque case est traitée comme un petit tableau. On peut presque le sortir de la BD pour le regarder. Et donc c'est vraiment une promenade dans des dessins. Le traitement des couleurs est très très beau aussi avec cet encre. Moi je suis très sensible aussi aux choses dessinées. Pas forcément à l'ordinateur, justement.
Ah bah là, on sent que c'est très artisanal,
C'est très puissant, quoi. C'est très beau.
Merci.
Élise Gruau.
Oui, alors moi j'ai été fascinée par ce voyage. Je trouve qu'on est très porté par le dessin, par les couleurs. On se laisse complètement embarquer. Et puis on est mis en appétit tout le temps. Ça, c'est vraiment génial comme sensation de lire et de voir. Et puis c'est cette dimension qui en général n'est pas dans les BD. Bah, là, on a tout le temps des saveurs qui montent et on salive. Et,
C'est vrai, alors, la représentation des plats est vraiment réussie parce que ça donne envie en regardant, et c'est pas facile de dessiner de la cuisine.
Ça donne carrément envie de prendre un billet d'avion pour partir au Vietnam. Manger. Alors on rencontre énormément de choses dont on soupçonne pas forcément l'existence quand on n'est pas allé au Vietnam. Les huîtres grillées parsemées d'oignons verts et de cacahuètes, le roram qui est cette espèce de mande vietnamienne qu'on trouve de plus en plus dans la cuisine. On croise également une recette, Lin Nguyen, que vous nous avez cuisinée. C'est le poulet au gingembre, et comment ça se dit en vietnamien?
C'est bò kho gừng en vietnamien, en fait. Donc en fait, c'est des hautes cuisses de poulet. Mm-hmm. C'est les parties qu'ils utilisent très souvent pour faire les plats vietnamiens. Parce qu'en fait, le suprême, c'est très sec après une longue cuisson. Et la cuisine vietnamienne, c'est souvent la cuisine au misote beaucoup. Parce que là-bas, c'est la viande, tout ça, ça vend dans la rue. Donc en fait, on n'a pas supermarché à l'époque comme en ce moment. Mm-hmm. Donc, tout est cuit très longtemps dans le bouillon.
Ouais.
Ou sinon, mijoté très longtemps avec plein d'épices. Et surtout, évidemment, pour pas manquer la sauce du Nguyen Mam, les fameux.
C'est ça, voilà. Il y a le Nguyen Mam, cette sauce de poisson fermenté qui est essentielle dans la cuisine vietnamienne. On a déjà l'odeur de ce poulet au gingembre qui circule sous les micros, là. On a également le goût bientôt, alors on peut goûter. Cher André de Rennes, est-ce que ça vous rappelle des souvenirs?
Déjà visuellement, c'est très beau, le poulet, on voit qu'il est très bien cuit.
Il est tendre.
Il a une très très belle couleur.
Un peu caramélisé, hein.
Ah, c'est délicieux, c'est fondant. Super bon.
C'est bon, hein. Et puis il y a une petite note comme ça, un peu aigre-douce. C'est à la fois un peu piquant, ça c'est le gingembre, j'imagine. Il y a de la rondeur également.
Oui.
Comment on fait ce poulet au gingembre?
Bah écoutez, on fait toujours à la base de caramel. Et puis après, on le fait frire le gingembre dans les caramel pour stopper la cuisson de caramel déjà. Et c'est pour caraméliser naturellement le gingembre pour développer un peu plus de parfum.
C'est du gingembre frais?
Gingembre frais, oui. Je le hache et je le fais cuire dans les caramel avant de mettre le poulet dedans. Une fois le poulet dedans, je le cuis tout doucement le poulet dans les caramel. Et puis après, je le mets l'eau juste à la hauteur, je baisse le feu et je le laisse cuire tranquillement.
Combien de temps?
30 minutes.
Ah, d'accord.
Gentiment. Et juste avant de servir, j'ai rajouté encore un pot de gingembre frais à la fin.
Ah ouais. Il y a d'ailleurs des notes comme ça de gingembre vraiment frais, on le sent. C'est quel morceau du poulet que vous utilisez pour
faire
cette recette?
C'est le cuisse de poulet.
Désossé, évidemment.
Désossé, évidemment.
Et coupé en petits morceaux.
Coupé en petits morceaux, oui.
Et votre caramel au départ?
En fait, c'est une technique que moi j'ai trouvée moi-même pour faire les poulets. J'ai coloré avant côté la peau, comme ça la reste, elle forme tout seul. Une fois que le poulet et la peau s'est bien colorée, j'enlève tout le poulet et je mets le sucre dans la reste de poulet, en fait.
Et c'est du sucre semoule? Du sucre blanc?
Voilà, du sucre blanc, oui.
C'est un régal. Vraiment, bravo, on se régale en fait cette recette qui n'a pas l'air si compliquée à faire. La recette se retrouve dans Un orage par jour d'André de Rennes aux éditions Caribus, mais également sur notre site internet franceinter.fr. À la page, on va déguster. Tout à l'heure, on va déguster une autre recette, Lynn, également vietnamienne, extraite du livre. Mais c'est une surprise, on en parle tout à l'heure avec André et vous. Lynn, merci beaucoup. On va donner la parole, évidemment,
à celle qui connaît très bien le phénomène en librairie de la bande dessinée et du roman graphique quand ceci se penche sur la gastronomie, c'est Déborah Dupont.
France Inter. On va déguster.
Quand le roman graphique et la bande dessinée racontent la cuisine, le vin, l'alimentation, l'agriculture, c'est un créneau très porteur, diraient nos amis éditeurs. On décrypte ce phénomène avec vous, Déborah.
Alors c'est effectivement un créneau très porteur, mais de manière générale, la bande dessinée, le manga sont des secteurs qui se portent très très bien dans l'édition. Et là, j'espère que nos auditeurs et auditrices ont bien compris avec la première partie de l'émission à quel point c'était un genre travaillé. Parce que souvent, les personnes ont l'impression que c'est pas réellement des livres, la bande dessinée. Il y a un côté un peu péjoratif, ouais, c'est du dessin, il y a pas d'histoire. Et là, j'espère vraiment qu'on aura réussi à faire passer ce message comme quoi c'est très travaillé, c'est scénarisé. Il y a un continuum en fait dans les albums et ça se ressent sur la production effectivement éditoriale puisque on a par exemple les grands cuisiniers et gastronomes historiques qui ont eu leur version en bande dessinée. Vous nous aviez parlé il y a quelques années de la passion de Dodin Bouffant.
Oui.
Qui a effectivement une version illustrée. On peut aussi penser à Escoffier, roi des cuisiniers, paru en 2018, donc une version en bande dessinée. On retrouve aussi des dessinateurs, Christophe Blain, qui par exemple est passé de Quai d'Orsay, où il croquait quand même Dominique de Villepin, à ensuite Alain Passard, en cuisine avec Alain Passard, qui est un album fabuleux.
Gallimard, hein. Ça c'est vraiment un album, on est d'accord, hein, c'est un album référence.
Qui à la fois décrit le quotidien du restaurant, puisqu'on suit le chef vraiment, et on vit avec lui, on voit ses mimiques, on a vraiment les gestuels du chef qui sont retranscrites, mais aussi les recettes.
C'est vraiment un documentaire graphique en fait.
C'est un documentaire graphique. On a Francky Alarcon aussi, qui nous a fait ça avec Jacques Genin pour Les Secrets du Chocolat, L'Art du Sushi, et qui, à l'automne dernier, a accompagné Thierry Marx et Raphaël Aumont. Donc on se rend compte aussi que ce sont des genres vraiment très différents. Yves Candebord, c'est le personnage principal de la série Frères de Terroir. Donc plusieurs cuisiniers qui ont donné lieu à ce genre d'album. Ensuite, on a l'histoire de la cuisine de manière générale. Comme un chef de Benoît Peters qui était venu d'ailleurs de cette émission.
Ah là là, c'était un super album.
Où là, ça racontait, c'était les années 70 avec la nouvelle cuisine. On a aussi l'incroyable histoire de la cuisine qui est parue l'année dernière. Avant ça, on avait eu l'incroyable histoire du vin. On a eu aussi, bien évidemment, Les Illustres de la Table chez Dargo, où là, on passait Anne-Sophie Pic, Erasme, Vatel, La Mère Poulard, Maïté ou encore Gaston Acurion. Donc, on se rend compte de la diversité. Pour cuisiner tous les jours, Ginette Mathiot, quand même. Ginette Mathiot, des millions d'exemplaires vendus. Je sais cuisiner, paru en 1932. Eh bien, il y a quelques mois, sous la plume de Jeanne-Zoé Lecorche, on a eu une version, alors expurgée bien évidemment, on n'a pas l'intégralité des recettes, mais on a une version bande dessinée avec les principales recettes, donc œuf mimosa, croque-monsieur, soufflé au fromage, veau jardinière, Guillaume Long.
Eh oui, bien entendu,
chez Gallimard. On a aussi reçu dans cette
émission, à boire et à manger.
À boire et à manger, donc qui a même été compilé en formule complète à l'automne dernier. Les amateurs d'Asie se régaleront avec le roman graphique, donc un orage par jour, mais aussi avec la cantine de minuit. On est quand même au 11e volume, c'est absolument fabuleux. Oui. Sans oublier, on a eu aussi le gourmet solitaire dont on a parlé tout à l'heure. Là, on est vraiment sur le manga pur où on accompagne notre héros dans ses cantines du quotidien, où il nous décrit ses repas, où il nous décrit aussi ce qu'il aurait aimé manger, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris ça à la carte, mais la prochaine fois il prendra ça. Enfin, on est dans une immersion totale. Et puis le vin donne lieu à énormes séries. Alors, Les Gouttes de Dieu, on est
bien
quand
sûr.
Même... 44 volumes.
Les Gouttes de Dieu.
Et puis Glénat, un éditeur qui effectivement nous a fait des grandes séries, Château Bordeaux, In Vino Veritas, Le Sang de la Vigne, Claude Bourgogne, Vinifera, on en a toute une liste. Donc je vous ai indiqué tout ça sur la page, on va déguster. Et comme ça j'espère que chacun pourra trouver son bonheur en bande dessinée.
La bibliothèque idéale de Déborah Dupont a consulté près de 40 titres que vous avez référencés et commentés.
Oui, donc bien évidemment, j'en ai oublié.
Oui,
mais
évidemment.
J'ai essayé de lister en tout cas ceux aussi qu'on trouve encore, parce que beaucoup sont épuisés.
Aurélie Castex.
Il y a aussi Étienne Davodeau, là, pour le vin.
Les Ignorants.
Voilà.
Qui a été d'ailleurs, il y a eu une réédition, là, en
pour
fin d'année dernière.
Ans, mais qui est épuisée.
C'est de la BD documentaire extraordinaire aussi.
Ah oui, du côté des vignes. Et nous avions reçu Étienne Davodeau il y a quelques années.
Et non, il y a une énergie incroyable. Il y a plein de choses qui se font, en fait, en bande dessinée, en roman graphique, en illustration, en ce moment.
Et ce qui permet aussi à chacun et chacune de trouver à son goût, parce que c'est vrai que le trait caractéristique du dessinateur ou de la dessinatrice peut plaire ou ne pas plaire. C'est ça aussi ce qu'il faut quand même avoir en tête. C'est qu'on peut aimer un sujet et pour autant, on n'accroche pas avec le dessin. Mais l'avantage d'avoir maintenant énormément de productions permet, en fait, de trouver vraiment des choses à son goût et d'avoir à la fois le texte qui nous plaît, mais aussi le dessin.
En dessin, et c'est important. Vrai, pour le scénario aussi, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de bandes dessinées documentaires dans lesquelles on peut apprendre plein de choses. Et ça rend accessible parfois des sujets quand on n'a pas forcément le temps ou l'envie de se plonger dans des gros essais, des gros livres. C'est plus accessible avec les dessins.
Dans un instant, on quitte la frénésie urbaine pour la campagne, et plus exactement la Normandie, des pâturages, des bocages, des vaches. Avec vous, Aurélie Castex et Élise Gruot.
Moi, je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il de sauvage? Dis-moi, que reste-t-il? Ouais, je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il du paysage? Dis-moi, que reste-t-il? Adieu, vieux monde adoré. Adieu, vieux monde adoré. Une image oubliée sur un bout de papier. Un quoi, si punk, iroquois, crypto-chat, bikini turquoise, où suis-je sur la toile? Ah ouais, j'appelle à l'aide, mais je ne sais ni qui ni pourquoi. Bikini turquoise, ni qui ni pourquoi, bikini turquoise, où suis-je sur la toile? Ah ouais.
Cristaux liquides, le dernier titre de Feu Chatterton sur France Inter. Des dessins et des bulles pour dire l'alimentation et la gastronomie. C'est un On va déguster spécial consacré au roman graphique.
France Inter, François-Régis Gaudry, On va déguster.
On en vient à Terre Ferme, Aurélie Castex et Élise Gruot chez Marabule. Il est sorti il y a quelques mois, en 2021, c'est bien cela. Avec une couverture qui donne le ton, on est vraiment dans une atmosphère champêtre. Puisque vous racontez dans cet album le destin d'Emmanuel et de Xavier. C'est une sœur et un petit frère, mais alors petit-petit. Enfin, quand je dis petit-petit, c'est qu'il y a 13 ans d'écart entre les deux.
Oui, tout à fait.
C'est ça. Et ils décident tous les deux de reprendre la ferme familiale, une exploitation laitière située dans l'Eure, en Normandie, dans un petit village que vous êtes censé bien connaître, c'est...
Oui, Saint-Christophe-sur-Avre. Moi, j'ai une maison de famille là-bas, donc j'ai eu l'occasion de les rencontrer parce que ce sont mes voisins.
C'est ça. Voilà. Et l'enjeu de cette intrigue, c'est la conversion en bio de leur exploitation. Face, on peut le dire, et c'est tout le talent de votre livre, c'est de raconter cette aventure humaine singulière sur fond de crise du lait et d'impasse du productivisme, on peut dire ça. Élise Gruot, vous êtes coautrice, scénariste aussi de ce livre. Est-ce qu'on peut parler d'un livre militant ou engagé?
Alors, je dirais pas ça, parce que on a abordé ce sujet plus par curiosité, mais pas avec une envie de convaincre. Il n'y avait pas un projet envers nos lecteurs, plutôt de donner à entendre le cheminement de réel de personnes qui sont vraiment les mains et le corps tout entier et la tête tout entière investis dans leur ferme avec leurs animaux. Et puis eux, au départ, c'était pas des gens convertis d'emblée au bio. Ça a été une solution par rapport à une crise qu'ils traversaient.
Ça commence assez mal ou de façon un peu curieuse, j'ai envie de dire, d'ailleurs, telle la scène d'un film, hein, vraiment d'un long métrage. On n'est pas vraiment dans les bocages normands, on est beaucoup plus loin. Les premières pages se situent avec Xavier, l'un des personnages, en Afrique. À Bobo-Dioulassou, c'est ça, c'est la capitale culturelle du Burkina Faso.
Voilà.
Et on va apprendre très vite ce qui va se passer.
Oui, Xavier, en fait, c'est le troisième, le plus jeune d'une famille d'éleveurs laitiers. Et lui, son frère vient de mourir. Mm-hmm. Il avait repris la ferme de ses parents, son grand frère. Xavier, lui, qui avait refait sa vie très loin en Afrique, remonte jusqu'en Normandie pour retrouver sa sœur, qui avait la ferme avec son frère.
Emmanuel, donc.
Et pour vendre la ferme. Il va en fait, il ne va pas réussir à vendre cette ferme parce qu'il va être rattrapé par ses racines, on peut dire, par un attachement à cette terre et à ses animaux, à son troupeau. Toute l'histoire, c'est comment réussir à faire repartir la ferme, à la relancer alors qu'elle était dans une situation. Ça allait pas du tout. En fait,
on peut dire, hein, ferme endettée et ferme victime. Comme beaucoup, quand je dis que c'est aussi un livre qui a la vertu de décrypter, peut-être mieux d'ailleurs que bien des articles de presse, la situation du productivisme agricole qui a quand même envoyé beaucoup de producteurs de lait dans le mur. Il faut bien le dire, aujourd'hui, les producteurs de lait, ils sont tellement matraqués par la grande distribution, etc., qu'ils n'arrivent plus à vivre de leur labeur. Et ça, c'est quand même l'actualité qui est dans le background, si j'ose dire, dans l'arrière-plan de cet album. Élise Gruot.
Oui, complètement. C'était aussi un aspect intéressant de comprendre mieux cette crise du lait. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler avec toujours plus d'animaux, donc produire toujours plus de lait, et en réalité gagner de moins en moins au fil des années, au fil des décennies.
Eh bien, je vous propose justement, là aussi, d'écouter un extrait qui est un peu le moment de discussion entre la sœur et le frère, et tout va basculer.
En 2015, l'agriculture biologique nous était encore très méconnue. Des agriculteurs s'étaient lancés, mais ils étaient isolés. Jusque-là, nous, on n'en avait pas beaucoup entendu parler.
Ça serait le retour des vaches au pâturage.
Mais Xavier semblait déjà conquis.
Serait en extérieur, tous les jours.
Ça, c'est bien. J'ai jamais aimé les vaches enfermées. Dès que l'idée du bio avait été lancée, Xavier l'avait saisi au vol et commencé à faire des recherches.
Le but, c'est que la ferme tende à l'autonomie et que toutes les terres soient des prairies à brouter.
Mais est-ce qu'on gagne assez si on ne vend plus de céréales ?
En bio, le gros avantage, c'est qu'on économise sur tous les coûts de production. Il n'y a plus de chimie à acheter, moins de machines et moins de temps de travail agricole. C'est énorme.
Ça, c'est important. On sort du cycle infernal.
Il existe des aides à la conversion en bio, des dispositifs pour préserver les terres afin de protéger la ressource en eau. Et le lait bio est bien valorisé et il est acheté plus cher par les coopératives. On reviendrait à un système sain pour les animaux, pour les terres, pour nous. C'est ce que tu voulais au fond.
Tu crois vraiment que c'est la révolution qu'on n'espérait plus alors ? Ce projet bio, c'est ce qui pouvait nous permettre de réinventer la ferme. On n'a pas hésité très longtemps.
Réinventer la ferme, et c'est là où tout va basculer, cette fameuse conversion à l'agriculture biologique, aidée, il faut bien le dire, par un personnage d'ailleurs très intéressant, qui donne des conseils, qui prodigue comme ça la marche à suivre à nos deux néo-paysans, si j'ose dire. Hein.
Pascal Rougier, oui, ça c'est une fois qu'ils ont décidé de passer en bio, ils ont été aidés par ce personnage, mais ce qui est intéressant aussi dans l'extrait, c'est qu'il faut se rappeler qu'en fait ils ont grandi dans une ferme où ils ont appris par leurs parents une façon de travailler travailler, qui vient du productivisme. Ils ont dû réinventer complètement un métier qu'ils pensaient connaître, enfin qu'ils connaissaient d'une certaine façon, qui leur a été transmis par leurs parents.
Ils le font à une époque, en 2015, où il n'y avait pas beaucoup de producteurs qui tentaient justement l'aventure du bio. La conversion est quand même un engagement assez audacieux à l'époque.
C'est très difficile. Il y a des régions où il y a un peu plus de monde. Là où ils sont, eux, ils sont vraiment très isolés. Ils n'ont pas de modèle, en fait. Mais justement, Pascal Rougier, dont vous parlez, est là pour les soutenir, pour leur présenter d'autres éleveurs qui ont fait cette démarche et qui peuvent leur raconter toutes les embûches, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont se passer. Les vaches vont changer d'alimentation, elles vont maigrir, ça va être très douloureux et inquiétant pour eux. Voilà, donc Pascal les accompagne, les soutient et leur réapprend aussi un métier, parce que autrefois, à l'époque de leurs parents, il y avait une sorte d'absurdité, c'est-à-dire que ils ont des pâturages, mais en fait, ils achètent la nourriture des vaches à l'extérieur, et les pâturages servent à faire des céréales qui vont revendre aussi à l'extérieur. Donc là, on retrouve un cercle plus vertueux où les vaches vont manger ce qu'il y a dehors, devant les tables.
Pascal Rougier dit cette chose finalement assez simple, Élise Gruau, les vaches sont des herbivores. Donc il est vrai que nos deux néo-paysans ont tourné le dos vers un certain productivisme où il fallait absolument gaver au maximum les vaches pour qu'elles produisent le plus de lait, pour faire vraiment en quelque sorte des pisseuses de lait, donc on leur donnait du maïs, etc. Alors qu'au départ, une vache ne réclame qu'une chose, c'est manger de l'herbe, surtout en Normandie, là où elle est bien verte et bien grasse.
C'est ça, et il fallait aussi pour eux lutter contre des préjugés, des mots qui circulent, mais l'herbe ça pousse pas ici, alors qu'on a tous cette image d'une Normandie bien verte et bien arrosée. L'intervention de Pascal, elle est pour rassurer à plein d'endroits par l'expérience des autres agriculteurs passés en bio, et puis elle est aussi pour soutenir une plus grande technicité. Parce que l'herbe, effectivement, ça paraît tout simple. Et puis finalement, c'est pas si simple, l'herbe. Ça peut devenir très raffiné. Et c'est là qu'on va améliorer l'alimentation des vaches. C'est en mélangeant les herbes, en trouvant l'équilibre entre la terre, qu'est-ce qu'elle permet de cultiver, de bien obtenir, et puis la qualité des nutriments. Et voilà, et donc Pascal, Xavier et Emmanuel se livrent à des expérimentations sur les pâturages, de voir quelles sont les plantes qui s'implantent le mieux, quelles sont celles qui réussissent aux vaches. Et ça prend du temps. Et donc ils vont tester tout ça.
Et on apprend à la lecture de votre album ce qu'est un pâturage tournant.
Ah oui.
En un mot, Aurélie ?
En un mot, c'est l'herbe, ça pousse, les vaches mangent l'herbe, et du coup, le grand terrain est divisé en plein de petits pâturages.
De petites parcelles, en fait.
De petites parcelles, et les vaches vont changer chaque jour de parcelle, le temps que l'herbe repousse sur ce qu'elles viennent de manger, en fait. Donc c'est tout. Mais c'est vrai que c'est très très bien étudié, hein, oui. Parce que chaque mètre carré d'herbe représente de l'alimentation, et donc voilà, c'est aussi informatisé et tout ça par Pascal.
Et là, c'est un vrai manuel pédagogique sur l'agriculture biologique. Moi, j'y ai appris plein de choses. Il y a vraiment une dimension aussi didactique dans votre livre. C'est ça qui est formidable, tout en racontant évidemment une aventure humaine. En un mot, racontant évidemment l'atmosphère artistique de votre album. Alors là, il n'y a pas de doute, je crois qu'on a affaire à de l'aquarelle, Aurélie.
Oui, c'est de l'aquarelle. C'est de l'aquarelle. Déjà, il y a beaucoup de dessins qui ont été faits sur place, surtout les grandes planches. Donc, comme j'ai beaucoup de carnets, l'aquarelle, c'est très pratique. Mm-hmm. On a des petits godets, on peut se promener avec. Donc oui, tout est à l'aquarelle et au crayon.
Une partie du travail sur le vif.
Sur le vif.
Et une partie dans l'atelier.
Oui. Une grande partie dans l'atelier, en fait. Il y a une partie sur le vif qui sont des notes visuelles. Mm-hmm. Certaines planches sont dessinées dans les tables. J'ai des vaches qui sont autour de moi et de la planche. Mais tout le scénario a été après réalisé à l'atelier d'après les esquisses.
Et c'est là qu'est intervenu votre travail à quatre mains. On peut dire illustratrice et scénariste, ça vous va la répartition des rôles ? Comment ça s'est opéré votre travail en duo, Élise Gruau ?
Alors évidemment, la partie de dessin est exclusivement celle d'Aurélie.
Ouais.
Et je pourrais dire que celle du texte est un peu plus mêlée. Donc je me suis quand même occupée de prendre en charge ce scénario. Mais on a tout le temps discuté avec Aurélie de quelle serait l'intention globale de notre livre, comment on allait raconter cette histoire, vers quoi elle allait tendre, quel serait son point culminant, etc. Et puis, donc j'ai écrit, je me suis documentée, on a eu beaucoup d'entretiens avec Xavier Emmanuel et avec Pascal. Et puis, donc j'ai livré une première étape de scénario qu'Aurélie a relu. Et puis, on a créé ensemble le storyboard. Ça a été le moment de grande rencontre.
Le scénario prend une forme visuelle.
Et voilà. Et du coup, il y a des parties de texte qui disparaissent puisqu'elles sont dans l'image. Et puis, il y a des dialogues qui interviennent, qui n'étaient pas encore présents. Et ça, on l'a fait ensemble. On a validé le dialogue ensemble.
On vous recommande chaleureusement la lecture de Terre ferme, Aurélie Castex et Élise Gruau chez Marabulle. Vous confirmez, on l'a choisi ensemble, Déborah.
Ah oui, mais encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, la bande dessinée n'est pas du tout un art mineur. On a affaire à des vrais auteurs qui travaillent les textes, on a des histoires, c'est illustré par un support visuel, mais c'est juste passionnant de se plonger dedans.
André de Rennes, vous avez lu Terre ferme?
Oui, j'ai beaucoup aimé. En plus, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on est vraiment dans l'histoire avec les personnages qui sont assez attachants. Et on vit un peu le suspense du jour au jour de savoir est-ce qu'ils vont y arriver, comment ils vont faire pour leur conversion. Et on quitte plus le livre jusqu'à le finir.
Et puis on ressent beaucoup d'empathie pour ces deux personnages. On vit avec eux, on se dit, à un moment donné, je me dis, mais vont-ils réussir en fait? Parce que le parcours est quand même semé d'embûches dans l'agriculture biologique. Il y a des étapes à passer et on se dit, est-ce qu'ils vont y arriver à leur projet? Est-ce qu'on divulgâche en disant qu'il y a un happy end? Non, on a le droit?
Trop tard.
Oui, on peut. Non, ça y est. C'est vrai que c'était aussi une des raisons que ça nous a donné envie de raconter cette histoire aussi parce que...
C'est une réussite.
Parce que c'est une réussite. Et pour eux, c'était quelque chose de tellement viscéral. Il y a tellement un gros enjeu à chaque étape que c'était super de montrer que ça pouvait marcher.
Allez, on se remet un peu en appétit, ça vous dit?
Oui.
On retourne dans l'univers ouaté et l'univers humide de Ho Chi Minh Ville. Allez, juste comme ça, s'il y avait une petite chose qui vous a étonné, qui est présente dans votre roman graphique André de Rennes, que vous avez dégusté, quelque chose d'étonnant, qu'est-ce que ce pourrait être?
J'ai beaucoup été étonné par le Bo Nung La Lot.
Pardon?
Bo Nung La Lot, ça veut dire c'est du bœuf grillé avec des feuilles de la lot. Lynn a préparé justement ce plat-là.
La lot, c'est
une plante de la famille des poivriers et qui apporte elle-même un goût presque fumé en elle-même, je trouve, en tout cas assez intéressante. Et j'ai tellement aimé ce plat que j'ai demandé à Lynn si elle pouvait reproduire et proposer la recette à la fin du livre.
Car à la fin du livre, Un orage par jour, il y a effectivement un carnet de recettes avec les recettes vietnamiennes que vous avez signées. Il y a donc une double vocation. Hein. C'est un livre de recettes et un roman graphique. Et là, il y a effectivement, alors je n'oserais pas le prononcer, mais on va dire que c'est des brochettes de bœuf avec l'alot, qui est cette herbe que vous nous avez apportée.
Oui,
qu'on peut trouver dans les épiceries asiatiques.
Oui,
en France.
On peut le trouver très facilement et surtout à Paris, on a trouvé vraiment très facilement. Le goût serait très poivrier un peu.
Ça peut se manger cru?
Oui, bien sûr.
Alors,
on peut manger cru. Bah, allez-y, je vous en prie.
En fait, à la base, c'est un peu une mauvaise herbe. Non, ça pousse très facilement en tout cas.
Oui, c'est très facile. Ça pousse très facilement dans l'endroit humide.
Hein.
Oui. Même là, si on le prend la branche avec la feuille, on plante dans terre et les racines poussent tout seul.
Alors, ces petits rouleaux, est-ce que vous pouvez nous raconter comment on fait?
Ces plats, on le sert chez nous. En fait, normalement, on met toujours les galettes de riz à côté. Au cas où, si les gens ils ont envie de rouler tous les ingrédients à l'intérieur, comme une forme de rouleau printemps.
C'est ça.
Ou sinon, les autres qui n'aiment pas rouler, qui mangent tous séparément, qui mélangent comme ils ont envie. Et pour ici, moi, je fais le rouleau printemps, c'est plus facile. Donc, en fait, dans le rouleau printemps, évidemment, on va avoir le bon lalotte. Évidemment, moitié de bœuf et moitié de porc.
Oui.
Parce qu'en fait, s'il n'y a que le bœuf, pour le faire griller, ça va être très sec. Donc on mélange toujours. 50-50 ou 30.
Bœuf et porc.
Ou 70-30, ça dépend le goût. Et puis dedans, on a les ciboulettes, de l'ail, des sauces normales, du poivre, du sel.
Oui.
Rouler dans la feuille et le faire griller sur le feu de bois. Normalement, c'est des plats chez nous.
Mais on peut faire griller ça dans une poêle, par exemple?
Oui, bien sûr, on peut, à Paris surtout. C'est compliqué sur les feux de bois.
Alors, est-ce qu'on peut goûter?
Oui, bien sûr, on peut goûter.
Et là, on a sous nos micros ce qui pourrait ressembler à un maquis, un petit rouleau, comme
c'est ça.
C'est ça. avec sa feuille de riz qui enferme justement le bœuf, la garniture.
Oui.
Et également cette fameuse feuille de l'alotte.
L'alotte, oui, évidemment. Et à l'intérieur, vous avez les tranches de concombre, menthe, coriandre, puis après les cacahuètes rillées aussi. Voilà.
C'est extraordinaire.
Ça... Ah, c'est délicieux.
Ouais. Il y a plein de saveurs différentes qui se dégagent. Du sucré, du croustillant, du frais. C'est fabuleux.
Ouais, c'est dingue. On va se quitter sur ces rouleaux de la lotte. Et André de Rennes, je crois, va donner envie à beaucoup d'éditeurs d'aller voyager au Vietnam.
J'espère.
Ça, c'est moi qui vous le dis. Un orage par jour. Et vous dédicacez d'ailleurs votre roman graphique cet après-midi. Racontez-nous.
Oui, ça sera au festival Si Loin, Si Proche, à Noisiel, à la ferme du Buisson. Je dédicacerai le livre à partir de 16h.
C'est ça, on est en Seine-et-Marne, vous y courez. Terre ferme aux éditions Marabule d'Aurélie Castex et Élise Gruau. Merci beaucoup d'être venu témoigner au micro dont on va déguster.
Merci beaucoup.
Et puis un grand merci aux copains de France Inter qui ont interprété vos romans graphiques. Vincent Josse, que l'on retrouve tout à l'heure à 15h pour son grand atelier consacré à Marie-Christine Barrault, Stéphane Ronxin, mais aussi Laetitia Gaillet de la rédaction de France Inter qui propose d'ailleurs, tiens, c'est pas un hasard, tous les mercredis à 5h53, Bulle de BD, une chronique sur la bande dessinée. La semaine prochaine, une leçon de cuisine durable avec un chef belge passionnant, Sang Hoon De Gimbre, et la journaliste et auteure Marie-Laure Fréchet. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.